Lors de la dernière réunion du conseil de ville de Sherbrooke, plusieurs points intéressants ont été abordés, entre autres, plan d'action de la politique du patrimoine culturel de Sherbrooke. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui a été présenté là exactement?
Mais en fait, c'est le plan d'action qui est l'aboutissement d'un processus qui a débuté en 2007, donc ça fait déjà 7 ans. Il y a eu des consultations auprès d'organismes, évidemment, mais auprès des partenaires à partir d'une politique du patrimoine, comment on peut déployer cette politique-là. Et le plan d'action consiste à un certain nombre d'orientations, évidemment, toujours sujet à la capacité financière de la ville et des partenaires. Mais l'idée, quand on parle de patrimoine culturel ou de culture patrimoniale, c'est que trois éléments là-dedans. Il y a les bâtiments, évidemment, l'architecture, il y a les biens meubles et les biens immatériels également. Immatériel, ça veut dire des œuvres d'art, des contes et des choses comme ça qui font partie du patrimoine culturel. Et évidemment, les bâtiments appartiennent à des tiers. Et nous, toute l'approche de la politique du plan d'action, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec les propriétaires de ces bâtiments-là, avec les propriétaires de ce mobilier-là patrimonial. Vous savez, quand on injecte 750 000, comme on le fait dans la réfection de la cathédrale, mais la cathédrale ne nous appartient pas, oui, il y a un effort public, mais en même temps, ça fait partie des joyaux patrimoniaux du territoire. Donc, toute l'approche de la politique et du plan d'action, c'est de se donner les moyens pour les 10 prochaines années, comment on peut travailler avec nos partenaires, identifier les bâtiments protégés et se donner ensemble une stratégie pour pouvoir le faire.
Donc, le plan d'action, là, on vient de le déposer, là. Est-ce qu'il y a certaines grandes orientations là, que vous pourriez nous donner qui se distinguent peut-être là, et qui font en sorte qu'on ne refait pas nécessairement ce qu'on a fait il y a 20 ans, parce que j'imagine que ce n'est pas la première fois qu'on se penche là, sur la question du patrimoine ici à Sherbrooke. Là. Quels outils on vient de se donner grâce à cette réflexion qui dure depuis 2007, comme vous le disiez, là, et qui sort un peu de l'ordinaire?
Bien, l'identification, par exemple, ça, c'en est une action. Quels sont les bâtiments qui sont à risque et qui montrent un patrimoine, en tout cas une valeur culturelle, patrimoniale intéressante. Ça, l'inventaire reste à faire. Ça, c'est le genre d'action qu'on va faire maintenant. Il n'y a pas d'action précise quant à un bâtiment particulier. Ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de l'enjeu, des partenaires. Donc, c'est plus un processus qu'on a adopté. Bon, je ne pourrais pas vous réciter par cœur les 4 grands pans, mais c'est quatre orientations, je dirais stratégiques, parce que oui, il y a un peu de stratégie là-dedans. Comment on peut mobiliser les forces du milieu pour protéger notre patrimoine collectif. La ville de Sherbrooke agit en leader là-dedans, mais on ne peut pas tout faire seul et ça va prendre le concours de l'ensemble des partenaires.
Il y a un autre plan qui était à l'ordre du jour, celui-là, le plan directeur de la mobilité durable, un plan qui, lui, est adopté depuis quelques années. Et là, on avançait finalement lundi dernier les actions mises en place pour 2015, précisément, en ce qui concerne le réseau piétonnier et son développement. Bon, on sait qu'évidemment, il y a l'argent investi dans les trottoirs, mais est-ce que c'est que ça ou si on ratisse un peu plus large, là?
Non, ce sont les trottoirs, c'est l'enveloppe de 750 000 auquel on ajoute un 42 millions qu'on n'avait pas dépensé en 2014. Donc, on est un peu plus de 800 000 pour réaliser essentiellement, c'est des trottoirs. Quand on parle de plan de mobilité durable, le volet piétonnier, c'est ou bien des passages piétonniers d'un quartier à l'autre, ou bien c'est des trottoirs. Et dans ce cas-ci, c'est des portions de trottoirs sur Prospect, par exemple, entre Duvernay et Lionel-Gros. C'est des trottoirs sur le boulevard des Vétérans dans le secteur de Rock Forest. Donc, pour protéger le réseau des corridors bleus de sécurité pour les enfants qui fréquentent l'école. C'est King East, il y en a sur Galt également, sur la rue Léger. Donc, un certain nombre de tronçons qui ont été identifiés et c'est des nouveaux trottoirs. Donc, c'est des ajouts de trottoirs là, pour favoriser les déplacements à pied.
Une bonne nouvelle est arrivée par la Poste, accompagnée d'un chèque pour la ville de Sherbrooke. Le taux de cotisation 2015 au niveau de la CSST a diminué depuis janvier 2015 et cette nouvelle-là est venue avec un remboursement assez substantiel, là, au-delà de 600 000 $ qui ont été remboursés, donc en cotisation qui avait été perçue en trop. Est-ce que c'est la première fois que Sherbrooke va chercher un chèque aussi important en cotisation trop perçue auprès de la CSST?
Non, c'est pas la première fois, puis c'est des bonnes nouvelles. On va l'encaisser, on va le prendre. Ben c'est les performances, c'est le résultat des efforts qu'on a fait au cours des dernières années quand on a embauché, par exemple, des spécialistes en sécurité au travail. Et on l'a fait dans tous les départements. Là, on s'est donné une stratégie là, de sécurité au travail qui fait en sorte que, vous savez, le niveau de cotisation est basé sur l'expérience, sur le dossier d'expérience, donc le nombre d'accidents ou de lésions, etc. Et effectivement, c'est à rebours, c'est-à-dire on prend l'expérience des trois dernières années, on les réévalue en fonction de la réalité. Et si on a payé trop cher, mais effectivement, notre taux de cotisation est passé de 1,57 à 1,37 du 100 $ de masse salariale assurable. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, on avait payé 642 000 en trop. Maintenant, pour l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Il suffirait de quelques accidents rapides pour venir endommager ce dossier d'expérience-là. Et
c'est ce que je me demandais. Là, dans tout ça, il n'y a rien de coulé dans le béton en même temps. Là. Évidemment, c'est bien d'avoir mis en place des gens au niveau de la sécurité et puis d'avoir développé une culture de la sécurité dans les employés. Un accident étant toutefois un accident, suffit qu'un employé se fasse passer dessus par un véhicule qui recule et voilà que tout regrimpe. Là. Et donc, on ne peut pas miser là-dessus. Ce n'est pas un revenu fixe là, qui pourrait revenir à chaque année à Sherbrooke. Là.
Non, mais les efforts, il faut poursuivre en termes de sécurité, en termes de prévention, parce que la clé est là. Et notre expérience nous montre que plus qu'on fait de prévention, et c'est vrai dans tous les milieux de travail, évidemment, il y a des secteurs de travail qui sont un peu plus à risque. Le travail des cols bleus, par exemple, est un peu plus problématique ou les moteurs de ligne d'hydro que le personnel col blanc dans des bureaux derrière un ordinateur. Donc, ça dépend des corps de métier. Mais plus qu'on fait de la prévention, et c'est ça que nous enseigne ce rapport-là, plus c'est payant pour les contribuables.
Il y a eu la signature d'une entente avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles dans le but, je cite, de le mandater afin de procéder à un appel d'offres pour l'obtention des données LIDAR couvrant le territoire de la ville et, le mot qui m'a ici accroché, est de l'aéroport. On ratisse large et, les données LIDAR étant, je résume pour les auditeurs qui ne connaissent pas, des données obtenues grâce à un faisceau lumineux qui nous donne finalement un peu la géographie, la topographie de tout le milieu. Quel est l'avantage pour la ville d'aller se mettre à jour là, sur ces données-là et particulièrement jusqu'à l'aéroport? Est-ce que c'est vraiment en lien direct avec l'éventualité du développement de l'aéroport?
Bien, je dirais oui, ça permet de planifier la construction d'infrastructures. En fait, c'est de la télé détection aéroportée. Donc, en avion, on envoie un laser et on fait une lecture. Nous, on le fait, sauf que le ministère des Ressources naturelles permet aux villes de participer à leur appel d'offres. Parce que nous, quand on l'a fait en 2013, ça nous coûtait 210 $ du kilomètre carré, parce qu'il y a un coût, évidemment, de lecture. Et là, on va chercher la profondeur également, le couvert forestier, tout ce qui est objets et les infrastructures également. Et le ministère, son coût, quand il va en appel d'offres, parce qu'évidemment, c'est le volume, ça revient à 100 $ le pied carré, le kilomètre carré. Donc, on économise plus de la moitié en s'associant. Donc, nous, on dit au ministère, oui, on embarque. Ils vont inclure le territoire de la ville de Sherbrooke et de l'aéroport dans leur appel d'offres. Et nous, ça va nous coûter 45% du coût que ça nous coûterait normalement pour le faire.
À quoi servirait la mise à jour là, cette année de ces données-là?
Je ne pourrais pas vous dire. C'est la technologie qui se raffine. Les données sont de plus grande valeur, d'autant plus qu'on a une obligation depuis 2013-2014 sur les glissements de terrain. Ça va donner une lecture vraiment précise pour pouvoir intervenir et pour pouvoir appliquer notre politique sur les glissements de terrain. C'est vrai aussi pour les inondations. Les inondations, chaque année, c'est récurrent de plus en plus. On va comprendre qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque parce qu'il y a une lecture sur la dénivellation également. Donc, ça vient préciser avec les nouveaux outils, la toponymie, la topographie du territoire pour pouvoir prendre des décisions, des meilleures décisions là, pour les interventions.
On va terminer cette entrevue en parlant de cet appel d'offres qui a été accepté, donné, le contrat qui a été donné donc pour les services professionnels, pour la captation des séances du conseil municipal. On sait qu'en 2014, c'est un sujet qui a fait un peu la une des journaux là, que ces fameuses captations, parce que ici à la ville, vous y allez par la suite d'un montage d'une heure qui est télédiffusé, déposé sur le site web. Certains auraient voulu avoir l'intégrale. Vous disiez qu'il y avait là-dedans des coûts, que vous n'étiez pas prêt à assumer. Le fait d'aller en appel d'offres a-t-il permis justement d'avoir plusieurs soumissionnaires, de faire baisser les coûts et éventuellement de changer la façon de faire à la ville de Sherbrooke?
Non, la méthode est la même parce que dans le devis, c'était la même chose, sauf que l'intégrale audio est mise sur le site sur le site web de la ville et on va en soumission comme on le fait d'habitude. Donc, il y a deux entreprises qui ont soumis une proposition. Puis là, évidemment, il y a un comité de sélection. On parle de services. C'est pas simplement le montant, le prix qui compte. C'est l'évaluation de la qualité des services. Il y a un comité de sélection qui a été mis sur pied, comme on le fait d'habitude à la ville de Sherbrooke, qui ont analysé les deux dossiers de candidature. Et ça prend une note de 70 % pour se qualifier. Il y a une entreprise qui ne s'est pas qualifiée, qui n'a pas eu 70 % et l'autre, c'est l'entreprise qui fait déjà de la captation, s'est qualifiée. Donc, une note au-delà de 70 % et de façon automatique, comme il est conforme, la soumission est conforme, il obtient le contrat de l'ordre d'un peu plus de 78 000.
Pouvez-vous nous rappeler le nom de la dite compagnie?
Il s'agit de Cinecam Productions.
Nous avions avec nous le maire, Bernard Sévigny, maire de Sherbrooke, bien entendu. Merci bien pour votre collaboration. On vous retrouve dans quelques semaines. Chers auditeurs, je vous informe que vous retrouverez sur le site au microphone une deuxième entrevue autour du dernier conseil de ville. Entrevue, celle-là, entièrement consacrée au toit de la place Nikitotek. Je vous invite, comme toujours, à faire circuler cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.